VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Gambie, une délégation de la CDAO conduite par la Libérienne Ellen Johnson-Sirleaf, présidente en exercice de l'organisation régionale, est attendue ce mardi à Banjul pour tenter de convaincre le président sortant gambien Yahya Jammeh de rendre le pouvoir après sa décision de ne plus reconnaître sa défaite au présidentiel. Les présidents du Nigeria et du Ghana devraient faire partie de la délégation. L'ancien ministre gambien des Affaires étrangères, Sida Djobe, qui a servi dans le gouvernement de Yahya Jammeh, pense que ce dernier devrait saisir cette perche tendue pour une sortie honorable.
Il n'osera pas refuser l'arrivée de 4 chefs d'État chez lui. Il va l'exploiter pour avoir une sortie, parce que je crois que c'est la première réaction des Gambiens qui, en fin de compte, doutent la vérité, qui ne peut pas partir comme ça sans être jugé. Bon, peut-être que c'était, on l'avait dit très tôt, mais c'est une chose qu'on ne pouvait pas cacher. Il y a une chose, c'est que s'il part dans ces circonstances, il sauvera l'honneur. Et peut-être on envisagera une certaine situation spéciale pour lui, même si on allait le juger, je crois que sa bonne foi aura joué beaucoup de rôle pour pacifier tous ceux qui veulent la vengeance.
Sida Djobe, ex-ministre gambien des Affaires étrangères. Côte d'Ivoire, Abidjan accueille la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, une plateforme pour la promotion du planning familial en Afrique. Ce partenariat a pour but d'accélérer l'utilisation des services de planification familiale dans 9 pays d'Afrique francophone. Le thème de la réunion est « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes ». L'objectif principal du partenariat de Ouagadougou est d'atteindre au moins 2 200 000 utilisatrice additionnelle de méthodes de planification familiale dans les 9 pays concernés d'ici à 2020. République démocratique du Congo, alors que reprend aujourd'hui le second dialogue national à l'initiative de l'Église catholique, la coalition des Congolais pour la transition, la CCT, appelle à une transition sans le président Joseph Kabila. Maggie Moussouamba Kanyida, membre de la CCT, se veut catégorique.
La campagne Kabila, trop c'est trop. Donc nous, le peuple congolais, on en a marre. On a marre de Kabila. Il a géré pendant autant d'années, mais rien du tout. Alors c'est ainsi qu'on a décidé, donc nous, la CCT, tournons la page Kabila, trop c'est trop. Il a géré. Quel est le résultat? Rien du tout. Le premier désaventure, premier dialogue, deuxième dialogue. On est vraiment fatigués. Il doit partir avec son régime et nous laisser tranquille. Nous allons lutter jusqu'à la fin. En tout cas, on a besoin de la transition, mais sans Kabila. Au cas où il partait, il y aura des gens nègres qui n'ont pas participé à leur bêtise là, qui n'a pas été au gouvernement, qui n'a pas géré ce pays ici. Il y a la société et il y aura toujours quelqu'un qui va diriger la transition. Demandons Kabila doit partir.
Maggie Moussouamba Kanyida, membre de la coalition des Congolais pour la transition. Kenya, le gouvernement kenyan va réfléchir sérieusement à un éventuel retrait du Kenya de la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé lundi le président kenyan Uhuru Kenyatta. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dans un discours à l'occasion de la fête nationale hier, le président Uhuru Kenyatta n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la Cour pénale internationale, qui a démontré un manque flagrant d'impartialité, est devenue un instrument de la politique du pouvoir dans le monde et non de la justice pour laquelle elle a été créée. « Nous allons dès lors devoir réfléchir sérieusement à notre adhésion », a-t-il ajouté. Monsieur Kenyatta et son vice-président William Ruto avaient été inculpés par la CPI pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008. Par la suite, les poursuites ont été abandonnées. Depuis son entrée en fonction, la CPI a ouvert 10 enquêtes, dont 9 dans des pays africains. Certains leaders ont dénoncé un tribunal réservé aux Africains. Le Burundi a été le premier pays à claquer la porte en octobre. L'Afrique du Sud lui a emboîté le pas, puis la Gambie, faisant craindre une cascade de retrait des pays africains. La Russie a déjà annoncé le 16 novembre qu'elle va retirer sa signature du traité de Rome, qu'elle n'avait, du reste, jamais ratifié.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique américaine, le président élu Donald Trump a nommé aujourd'hui Rex Tillerson, le patron du géant pétrolier ExxonMobil, au poste de secrétaire d'État dans son futur gouvernement. Mais les contacts étroits entre ce PDG et les autorités russes, notamment le président russe Vladimir Poutine, font controverse au sein de la classe politique à Washington. Anne Albertson.
Monsieur Tillerson, 64 ans, entretient d'étroites relations d'affaires avec Vladimir Poutine, qui lui a remis en 2013 la décoration russe de l'Ordre de l'Amitié. Cet homme, c'est-à-dire Poutine, est un voyou et un assassin. Je ne vois pas comment on peut être l'ami d'un ancien agent du KGB, a lancé le sénateur républicain John McCain sur CNN. Donc, M. Tillerson est loin de faire l'unanimité, y compris dans son camp. Le sénateur Marco Rubio a de son côté exprimé des réserves, tout comme son collègue Lindsey Graham. Et puis, le Congrès, à majorité républicaine, va bien enquêter sur les cyberattaques et les interférences russes dans l'élection américaine, accentuant la pression sur Moscou, alors même que Donald Trump tente de s'en rapprocher. Et il trouve ridicule les conclusions de la CIA, selon lesquelles le Kremlin aurait ainsi cherché à renforcer ses chances face à Hillary Clinton le 8 novembre dernier.
Pour sa part, Vladimir Poutine se dit prêt à rencontrer Donald Trump à tout moment, mais précise ce mardi dans un entretien accordé à des médias japonais qu'il serait préférable que le président élu des États-Unis forme d'abord son gouvernement. Le président russe et son futur homologue américain se sont déjà entretenus par téléphone depuis l'élection de Trump. Leurs équipes respectives ont fait savoir, d'après l'agence Reuters, qu'ils s'étaient engagés à dialoguer et à travailler à une collaboration constructive. Suite de la série de VO Afrique sur Flint, cette ville de l'État du Michigan ici aux États-Unis où les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Aujourd'hui, nous reparlons de ce scandale sous un autre angle. Il y a un an, la maire de Flint déclarait l'état d'urgence et depuis plus de deux ans, des milliers de personnes ont lancé des procédures judiciaires. Nastasia Peteuil s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux. Elle a rencontré les personnes qui se battent nuit et jour pour obtenir gain de cause.
Depuis plus de deux ans, Melissa Mays milite pour obtenir justice après avoir été empoisonnée par l'eau de Flint. Cette mère de deux enfants fait partie d'une action collective pour demander des réparations. Ils sont 10 000 dans ce cas.
Nous visons l'État du Michigan, car ce sont eux les responsables. D'ailleurs, des employés ont été inculpés, ce qui prouve ce que l'on dit. On espère pouvoir faire changer les matériaux électroménagers détruits par l'eau, leur donner de nouvelles canalisations, de l'argent pour continuer à vivre et à s'en remettre. Personne ne va s'enrichir.
Les habitants sont en colère et souhaitent poursuivre en justice l'État du Michigan et le comté. Pendant plusieurs mois, l'administration a caché à la population que l'eau n'était pas potable. Rachel Young, avocate, défend les habitants depuis le début. Elle a tenté de poursuivre en justice l'État pour près de 6500 personnes. Mais l'État a répondu qu'il n'était pas condamnable.
L'État nous a dit « Oui, on a mis la pagaille, nous nous sommes trompés, mais nous sommes le gouvernement, nous étions de bonne foi et vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice. »
Les habitants vivent donc quotidiennement avec un sentiment d'injustice. L'État est intervenu au début de la crise, mais n'est plus présent depuis plusieurs mois sur le terrain. Après avoir été empoisonnés pendant 18 mois, les familles cherchent des compensations financières.
Les habitants ont un sentiment d'injustice, car le gouvernement déclare qu'il n'est pas responsable pour les dégâts ou du fait que les enfants ont été empoisonnés ou que les habitants ont des rougeurs ou des pertes de cheveux et autres. Ils disent ne pas être responsables de leurs mensonges ou d'avoir déclaré que l'eau était potable alors que l'on envoyait des bouteilles d'eau aux fonctionnaires.
Plusieurs procès collectifs sont en cours. Pour l'instant, aucun recours n'a abouti. Les résidents de Flint doivent payer pour avoir ingéré de l'eau contaminée avec leurs propres deniers. Les conséquences sanitaires sont graves. Les enfants de moins de 3 ans et les nourrissons auront des conséquences à vie. Un drame pour les familles.
Et pour terminer, conflit en Syrie. Le régime du président Bachar al-Assad est ce mardi sur le point de remporter une victoire majeure dans la guerre civile syrienne en reprenant la totalité d'Alep, la deuxième ville du pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I wanna boom, bang, bang.